le son. Voilà. On y va. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à entendre Dieu? Est-ce que Dieu a envie de vous dire? Ouais? Ouais? Eh bien, on y va. Efface ton ardoise. C'est joli, non? J'ai mis une jolie illustration. Efface ton ardoise. Alors, je suis un peu tiraillé, j'ai été un peu tiraillé par rapport à cette prédication pour deux choses, et je les ai mis toutes les deux, tous les deux, pardon, mais j'ai mis les deux titres. La chose que j'avais dans mon cœur, qui est restée, et je ne vous cache pas que je n'ai pas pris assez de temps pour pouvoir vraiment travailler dans le sens où je voulais travailler, même si cette prédication va te parler ce matin, et elle m'a parlé déjà à moi, mais la première idée que j'avais, la première envie que j'avais envie de vous partager, c'était le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur. Et cette expression, elle peut porter à confusion, le droit à l'erreur. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment préciser, parce que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous ici pour une seule et même raison, c'est pour pouvoir servir Dieu. On a tous envie de pouvoir avoir un Dieu vivant qui nous parle, et il parle. Est-ce qu'il y en a qui entendent parler Dieu? Est-ce qu'il y en a qui entendent parler Dieu? Alors, il y en a qui vont me répondre, ben, moi, Fred, écoute, j'ai pas entendu le son de sa voix ou quoi, mais ou alors il m'appelle assez rarement, d'accord? On a tous des portables ici et j'avoue que ben, j'ai pas l'occasion d'enregistrer son numéro parce qu'il m'appelle pas souvent. Mais il faut savoir que Dieu a plusieurs façons de te parler. Et en l'occurrence, la Bible est une des façons que Dieu a mis en place et que Dieu nous a laissé pour que l'on puisse entendre le son de sa voix. Et c'est pour ça que ce matin, on va rester tous sur la même règle, une règle qui est importante, c'est que la Bible est la parole de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? La Bible est la parole de Dieu. Elle est reconnue. Alors certains vont me dire, oui, bon, c'est un livre, etc. Oui, c'est un joli livre. Sauf que si tu lis la Bible avec l'Esprit de Dieu en toi, si tu la lis, cette Bible, avec vraiment une présence, quelque chose qui fait que tu es en relation, que tu es connecté avec Dieu, forcément la Bible va te parler. Je suis toujours stupéfait de voir que lorsque j'ouvre ma Bible et que je lis des passages que je connais pourtant, pour certains je les connais par cœur, et quand je les relis, des fois ça me parle d'une façon différente que la fois précédente. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Dernièrement, j'ai vraiment eu dans mon cœur de relire un livre de la Bible et c'est vrai que je me dis, mais oh, c'est vraiment pour aujourd'hui ce livre. Lorsque je lisais ce livre qui est dans l'Ancien Testament, c'était Jérémie, pour ne rien vous cacher, le prophète Jérémie. Lorsque je lisais Jérémie, je me disais, mais bon sang, ce livre, il est vraiment pour aujourd'hui, quoi. C'est pas le livre d'il y a, allez, on va dire 2000 ans, on va arrondir, hein, parce que Jérémie était bien au-delà de ça, mais je suis stupéfait de voir la véracité de la Bible, la pertinence que la Bible peut avoir, que ses paroles peuvent avoir dans la vie de tous les jours pour chacun d'entre nous. Vous êtes avec moi? La Bible, elle est tellement puissante. Elle est tellement puissante. Et ce matin, j'aurais envie de vous dire que la Bible, et on en a tous des formats différents. Alors, je ne sais pas si on a beaucoup de Bibles ce matin, parce qu'on a tous avec notre Bible, soit sur une tablette, soit sur un smartphone. Mais voilà, il y a Sandy qui va brandir sa Bible. Bien, Sandy. Ouais, et celle-là, elle est superbe, vous savez pourquoi? Pour caler un meuble. Ben ouais! Regardez, elle est petite. Il suffit que vous ayez un meuble qui a, allez, un petit jour de 3 cm. Bon, je vais faire attention à ce que je dis parce que j'ai un menuisier en face de moi. S'il me dit que le meuble il est bancal, voilà, il va m'en mettre une. Mais des formats de Bible, il y en a tellement. Vous savez que moi, je m'amuse à compter, mais des Bibles, j'en ai au moins 6 ou 7. J'en ai 6 ou 7. Alors, ça va de la grosse Bible à celle qu'on m'a offerte à mon baptême, celle des Gédéons, là où il y a juste le. Mais voilà. Et en fait, la Bible, elle n'est pas là pour caler un meuble, elle est là pour caler ta vie. C'est beau ce que je viens de dire. Merci Seigneur. Purée, je devrais m'applaudir. Non. C'est vrai, la Bible, elle est là pour caler ta vie. Allez, on y va, on continue. Efface ton ardoise. Pourquoi j'ai pris ce thème-là? Allez, je ne vais pas attendre que vous me répondiez. Efface ton ardoise. J'ai trop entendu et j'entends trop souvent des gens qui me disent, et je l'ai déjà dit, j'arrêterai pas de le dire. À chaque fois que je pourrais le dire, je le dirai, mais je ne veux plus entendre des personnes me dire, mais moi, je n'ai pas de place dans l'Église. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui pensent que leur péché est plus grand que leur relation avec Dieu. Et à partir de là, comme ils baignent dans leur péché, eh bien, ils gardent une ardoise. Et leur ardoise, elle est là. Et pourtant, Dieu te dit, tu as un droit à l'erreur. Ça me donne envie de pleurer quand je dis un truc comme ça. Dieu te dit que tu as un droit à l'erreur. Et que Dieu, il est là, à partir du moment où, et ça c'est un sujet qu'il faut absolument qu'on reprêche dans les églises, je ne parle pas du phare parce qu'on en parle régulièrement, mais c'est la repentance. Le pardon et la repentance, c'est de pouvoir dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai un péché encore qui est là dans ma vie, et des fois je chute, mais je sais que si je me repens devant toi, tu peux effacer mon ardoise. Vous connaissez le principe de l'ardoise quand on allait dans un bar à l'époque, je ne sais pas à quelle époque, mais on disait pas au barman, mais au tavernier, n'importe, enfin celui qui tenait la boutique, on lui disait, bah tiens, tu mets ça sur mon ardoise. Et donc, il additionnait, tu as bu une bière, boum, il la mettait, tu bois un café, boum, il la mettait aussi. Et à la fin du mois, tu venais payer ton ardoise. Sauf que Jésus-Christ, il a payé pour toi. Il est monté sur le bois du calvaire, il a payé pour toi, tous tes péchés. Allez, on va commencer, on va lire quelques passages et vous verrez que La Bible, elle est percutante, elle est saignante même, mais elle a envie de pouvoir te montrer combien Dieu te veut et combien Dieu veut faire en sorte que tu puisses sortir de cette torpeur que tu as là en te disant, mais mon péché m'empêche de pouvoir m'approcher de Dieu. C'est vrai, ton péché t'empêchera. Ton péché t'empêchera, désolé pour la redondance, mais voilà, c'est comme ça. Mais ton péché t'empêchera de t'approcher de Dieu. Le fait de moins pratiquer ou de ne plus pratiquer ton péché te permettra de t'approcher de Dieu et de pouvoir vraiment être dans sa présence. Mais à partir du moment où tu vas chuter, eh ben, Dieu va être le premier à te dire, attends, viens, je vais t'aider, on va se relever. Allez, on va lire. Éphésiens 2, verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Aujourd'hui, on vit dans un monde, et je vais peut-être être cru dans ce que je vais dire, mais on vit dans un monde dépravé. Un monde qui marche sur la tête, littéralement. Alors, je ne vais pas aborder là des points de doctrine, hein, ce n'est pas le but. Mais lorsque je vois ou lorsque j'entends des choses, parfois je me dis, mais bon sang, si on pouvait rester sur cette base biblique, eh bien, bien des choses seraient différentes. Et quand je parle de choses, je ne parle pas forcément du gouvernement ou quoi que ce soit, de tout ce qu'on peut entendre en ce moment. Des fois, c'est même de la part de chrétiens. C'est vrai que les réseaux sociaux, franchement, ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est de regarder la vie des autres. Mais sur les réseaux sociaux, on voit tellement de choses. On voit vraiment le ressenti ou ce qui déborde du cœur. Des fois, il y a des personnes qui vont mettre des expressions, des choses sur Facebook. Et j'ai des fois envie de leur envoyer un message en disant « Ouais, doucement, ouais. Mollo. » Pourquoi ? Parce qu'on a cette nature, la nature humaine, qui veut tout le temps nous tirer vers le bas. Et pourtant, Dieu veut nous tirer vers le haut. Dieu veut faire en sorte que tu puisses être tiré vers le haut, avoir cette relation avec lui, pouvoir sortir de quelque chose, et parce que, en fait, Dieu veut que par ta propre personne, tu puisses changer le monde. On est tous des Marvel ici. Le premier qui m'appelle Batman, je lui mets une beigne. On continue, parce que ça c'est la suite, Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Julien, fais pas de photos, c'est dans ta Bible ça. « 1-0, balle au centre. Il n'est pas beau ce verset ? C'est par grâce que vous êtes sauvés. Jésus est monté sur le bois du calvaire, pour toi. Alors le bois du calvaire, on va appeler ça une croix, parce que des fois, voilà. Mais il est monté sur ce que vous voulez, parce qu'il y a aussi des polémiques sur le principe de la croix, etc. Jésus a donné sa vie pour toi. On va résumer au maximum. Jésus a donné sa vie pour toi. Pour toi. Je peux prendre chaque prénom ici et te dire, voilà, bah, Julien, Jésus, il a donné sa vie pour toi, Julien. Ouais. Ça peut être Pierre. Pierre, Jésus, il a donné sa vie pour toi, Pierre. Sandy, Jésus, il a donné sa vie pour toi, Sandy. Il a fait en sorte que nous puissions vivre sous cette grâce. Il a effacé l'ardoise. Il a fait en sorte que tu puisses avoir une vie où tu étais dans un monde avec une vie qui te tirait vers le bas pour pouvoir effacer ton ardoise. Ton droit à l'erreur, il est là. C'est que Jésus, à un moment donné, il a dit, voilà, j'entends ta repentance et je fais en sorte que cette repentance puisse rebondir dans mon cœur et faire en sorte que tu puisses être sur une voie différente. Et cette voie, c'est celle que je vais mener avec toi. Et c'est maintenant que je prends un passage qui est tellement précieux et on va se pencher sur celui-là. 2 Corinthiens 5, 19 et 20. J'aime beaucoup les livres de Corinthiens. Ils sont très, très factuels, très, très concrets pour aujourd'hui. Il y a plein de chapitres, les deux livres de Corinthiens sont vraiment pour aujourd'hui. Enfin, pas que, hein, mais... Car Dieu était en Christ. Alors déjà, la première chose, Dieu était en Christ, d'accord ? Réconciliant le monde avec lui-même. Et c'est là, c'est curieux parce que Dieu a créé le monde et il nous dit qu'il a réconcilié le monde avec lui-même. Oui, si tu passes par la repentance, tu es réconcilié avec Dieu. En imputant point aux hommes leurs offenses, il a effacé leur ardoise et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous avons la parole de la réconciliation en nous. Si tu es en Dieu, tu as la parole de Dieu en toi qui permet de réconcilier quiconque avec Dieu. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Il y a des ambassadeurs ici ? J'ai noté tous les noms de ceux qui n'ont pas levé la main. Nous faisons donc tous les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Pas pour nous, il n'exhorte pas pour nous, il exhorte par nous. C'est-à-dire que ta nouvelle nature, à partir du moment où ton ardoise est effacée, que tu as la nature de Jésus-Christ en toi, tu deviens l'ambassadeur de Dieu sur terre et tu es capable d'exhorter quiconque pour Dieu ou vers Dieu. Est-ce que ça va ? Est-ce que vous êtes avec moi ? Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Permet à la repentance d'avoir toute l'onction possible et imaginable dans ta vie pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu. Des personnes qui viennent me voir ou nous voir, mais qui disent, moi mon péché il est trop grand pour que je puisse rentrer dans une église. Il est trop grand pour que je puisse m'approcher de Dieu. Et peut-être que cette semaine, t'as toi-même pratiqué un péché qui te dit aujourd'hui, mais pourquoi je suis là ? Parce que le péché que j'ai fait cette semaine, peut-être que tu t'es mis en colère, peut-être que, je ne vais pas en citer des péchés, il y en a beaucoup, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui aujourd'hui fait que tu te demandes pourquoi tu es là ce matin. Et la réponse, elle est très juste. Tu es là parce que Fred prêche. Non, c'est pas ça. Tu es là parce que tu as un Dieu qui est vivant et qui t'accepte, qui accepte ta repentance, qui accepte que tu puisses revenir à lui parce qu'il va te relever. Il va faire en sorte que tu puisses être grandi par cette épreuve. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Ce passage de la Bible est d'une grande importance. C'est lui qui recadre qui tu es réellement. C'est lui qui va te parler à partir du moment où je t'exhorte à le surligner dans ta Bible, parce que si jamais un jour ton péché t'empêche de pouvoir revenir à Dieu, c'est là où tu vas pouvoir reprendre ce passage en disant « Mais je suis un ambassadeur de Dieu. Il faut absolument que je revienne à sa miséricorde. » C'est où ? « Car Dieu réconcilie le monde, on n'a plus tant aux hommes. » Hop, voilà. C'est pas dans celui-là, c'était dans celui d'avant. Mais j'aime bien le terme de miséricorde. Vous savez ce que c'est une miséricorde ? Non ? Ouais, répondez au moins. Non, vous ne savez pas ? Bon. Une miséricorde, c'est un petit poignard. Un petit poignard que les soldats portaient à la ceinture. Alors, je ne sais pas en quelle époque, mais c'était, je crois, au Moyen-Âge. Et en fait, quand il y avait quelqu'un sur le champ de bataille qui était blessé grave, et qu'il était là en train de geindre, eh ben, on le supprimait, tout simplement. On faisait en sorte qu'il arrête de souffrir et on le supprimait avec une miséricorde. D'accord ? C'était le petit couteau qui permettait d'achever les blessés. Et en fait, Dieu, lui, c'est l'inverse. Sa miséricorde veut faire en sorte que si tu es blessé, il puisse te guérir. Et que tu puisses revenir à lui, parce que lui, sa miséricorde, elle est là pour faire en sorte que tu puisses, entre guillemets, ressusciter. Et ça, c'est toute la grâce que nous avons en Jésus-Christ. C'est que Jésus a permis, par le sacrifice de sa vie sur le bois du calvaire, il a permis que nous puissions rentrer dans cette miséricorde et rentrer dans la vie en Jésus-Christ. C'est pas beau, ça ? Allez, je lis ça rapidement. Un jour, une institutrice écrivit ceci sur le tableau. Tout le monde connaît ces tables de multiplication ? Ouais ? Allez, celui qui répond vite, 9 fois 9. Bon, c'est bien. C'était timide, mais c'était bien. Donc là, l'instit, elle écrit 9 fois 1, 7, 9 fois 2, 18, 9 fois 3, 27, 9 fois 4, 36, etc., etc. Donc vous avez vu, il y a une erreur ? Non ? Une fois terminée, elle se retourna vers les élèves et constata qu'ils se moquaient tous d'elle à cause de la première équation qui était fausse. L'institutrice leur dit alors, « Cette faute, je l'ai faite exprès parce que je voulais vous apprendre quelque chose d'important. Vous devez savoir comment le monde dehors vous traitera. Vous pouvez voir que j'ai écrit 9 fois sans me tromper, mais aucun d'entre vous ne m'a félicité pour cela. Vous avez tous ri et vous m'avez critiqué à cause d'une simple et unique erreur. Il y a là une leçon à retenir. Les gens ne diront rien à propos du bien que vous ferez, même si vous le faites 1 million de fois, mais une simple erreur de votre part, et ils ne la louperont pas. Ne vous découragez jamais, passez au-dessus des rires et des critiques. » C'est vrai, non ? Le monde aujourd'hui, à partir du moment où vous faites une erreur, ils arrivent avec leur petite miséricorde et ils vous achèvent. Vous n'avez jamais vécu ça ? Il y a bien des circonstances, on peut tous se remémorer des circonstances dans nos vies qui a fait ou qui ont fait que, eh bien, à un moment donné, le monde nous a achevés parce qu'on a fait une petite erreur, alors que le reste était bon. On a fait une erreur et on s'est fait lyncher. Et aujourd'hui, on a ce privilège que, eh bien, cette petite erreur, Dieu, lui, la prend sur lui et il va la pardonner. Mais c'est exactement pareil dans le sens inverse. C'est qu'il faut absolument que l'on puisse, nous, et ce sont les trois étapes qu'on va aborder, c'est que l'on puisse, et c'est juste après, mais avant je vais prendre Galates, mais les trois étapes, elles sont, vous verrez, elles sont hyper importantes. Et si on prend bien conscience de ces trois étapes que je vais vous citer juste après, ça met du suspense quand on dit ça, je vais d'abord lire Galates, mais juste après je vous donne trois étapes importantes, parce que si on en prend conscience, c'est là où les choses peuvent changer. Galates 1, 22 à 24. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée. C'est Paul qui parle. Tout le monde connaît l'histoire de Paul. Hein ? Paul, en fait, était un tueur de chrétiens. Il était un tueur de chrétiens. Et jusqu'au jour où Jésus lui-même est venu en face de lui et il lui a dit, Paul, Saül, enfin Saul, parce qu'à l'époque il s'appelait Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu ? Jésus parle à la première personne parce que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Et Jésus, si à partir du moment où on te touche, toi, eh bien on touche Jésus en personne. Et Jésus, il est là, il va voir ton ennemi, entre guillemets, ou la personne qui te fait du mal, il va dire, pourquoi tu me persécutes ? Et donc c'est là, donc Paul dit, or mon visage était inconnu des églises de Judée, donc après ça, Saul est devenu Paul et est devenu chrétien. Je vous rappelle que Le mot chrétien était une insulte à cette époque-là. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elle rendait gloire à Dieu à cause de moi. » C'est-à-dire que cette grosse erreur que Saul a fait, à partir du moment où il est devenu Paul, ça a été complètement pardonné par la grâce de Jésus-Christ. Et que même les chrétiens de l'époque ont oublié cet état de fait. Le fait que Paul était quelqu'un qui martyrisait l'Église a été oublié parce que, eh bien, il a eu la miséricorde de Dieu et qu'aujourd'hui, enfin à l'époque, à ce jour-là, il annonçait la parole de Dieu. Donc qu'est-ce qui est le plus grand? Est-ce que c'est le négatif? Est-ce que c'est l'erreur de Paul? Ou est-ce que c'est ce qu'il faisait au moment donné, là, au moment voulu? Est-ce que c'est le plus important? Est-ce que c'est de martyriser le corps de Christ? Ou c'est après de pouvoir sauver un maximum de personnes pour dire ce que j'ai fait, c'était pas bien? Mais aujourd'hui, la vérité de Jésus, elle est là. C'est pas... La vie avec Jésus ou la vie avec Dieu, comme tu veux, la vie de chrétien, ce que tu peux mettre comme qualificatif, ou voilà, c'est pas un jeu. On n'est pas là pour jouer. On n'est pas là pour se faire plaisir. On n'est pas là, on vient pas à l'église parce que bah tiens, c'est sympa, il y a une bonne ambiance, il y a de la bonne musique. C'est pas ça. La vie avec Jésus, elle est sérieuse. Elle a des conséquences sur tout, sur ton entourage, bien évidemment tout ce qui est professionnel, familial, mais également personnel, parce que ton caractère peut changer complètement. Parce que Jésus, à partir du moment où tu vas l'inviter dans ton cœur, et il va faire en sorte qu'il se passe quelque chose, tu ne vas pas rester le même. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu ça un jour? Lorsqu'ils ont invité Jésus-Christ, est-ce qu'ils ont senti cette présence et ce changement dans leur vie qui a fait que ben, le fait que Jésus soit dans notre vie, c'est complètement palpable, c'est complètement concret. Donc j'en reviens à mes trois fameuses étapes. La première étape, c'est tout simplement qu'il faut qu'on prenne conscience que l'on est pardonné. Tu es pardonné. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ ce matin, tu es pardonné. Si vous saviez le nombre de personnes qui donnent leur vie à Jésus dans les prisons en ce moment, parce qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait, pour beaucoup, et pour certains, des choses quand même graves, mais c'est fait. Et même des prisonniers dans les prisons ont la possibilité de venir à Jésus et d'avoir une reconstruction, de pouvoir être reconstruit par Dieu. Et il y a cette prise de conscience de dire, voilà, oui Jésus, lorsque tu es mort sur la croix, c'était pas pour faire joli, hein. C'était pas parce qu'à l'époque on aimait bien mettre des gens sur une croix et les clouer, c'est tout simplement parce que toi, tu as accepté de donner ta vie. Et que tu es même venu sur terre pour donner ta vie, pour que celui qui croit en toi ne périsse pas, et qu'il ait la vie éternelle. Ce que je viens de vous citer là, c'est la Bible. La deuxième grande étape, ben, c'est de se pardonner soi-même. Parce que beaucoup ont cette rancœur envers eux-mêmes. C'est vrai que je peux parler personnellement. J'ai fait des choses dans ma vie dont je ne suis pas fier. Je ne suis pas fier du tout. Et pourtant, ça ne sert à rien de regretter, parce que je ne peux pas revenir sur ces circonstances. Je ne peux pas aller prendre une ardoise comme Dieu peut le faire avec, vous savez, cet effaceur. Quand on était, moi je me souviens, hein, enfin, maintenant les jeunes n'ont plus de tableau avec une craie, vous savez que l'effaceur, mais on aimait bien aller effacer le tableau de l'instit à la fin de la journée. C'était un privilège quand l'instit disait, bah, tiens, un tel, efface le tableau. On aimait bien, c'était rigolo d'effacer le tableau. Aujourd'hui, on a des circonstances dans nos vies qui nous empêchent des fois d'avancer, mais on ne peut pas revenir dessus. Les regrets ne servent à rien. Par contre, la repentance, oui. Est-ce que la repentance, c'est une sorte de regret? Je n'irai pas jusque-là, mais bon. Il faut que tu te pardonnes. Tu as fait des choses dans ta vie qui t'empêchent d'avancer. Pardonne-toi, parce que Dieu te pardonne. Alors si Dieu te pardonne, qui tu es, toi, pour ne pas te pardonner? Et la dernière étape, pardonne. Pardonne. Vous savez, par rapport à ces circonstances sur lesquelles je ne suis pas fier, il y a des gens qui m'ont pardonné. Tout comme moi, j'ai dû pardonner. Vous êtes toujours avec moi? Ça va? Ouais. Votre ardoise est toujours aussi chargée ou est-ce que vous sentez qu'elle s'efface un petit peu? Sur les trois étapes, laquelle est aujourd'hui celle qui pêche chez toi? Est-ce que tu sais que tu es pardonné? Est-ce que tu as réussi à te pardonner toi-même? Est-ce que tu arrives à pardonner l'autre? Laquelle des trois étapes est pour toi un obstacle, une montagne? Parce que ça peut être une montagne. Ça peut être vraiment quelque chose qui t'empêche. Tu es sur une route et là, il y a une montagne qui est là et tu te dis, je ne peux plus rien faire. Parce qu'il y a une de ces trois étapes qui t'empêche de gravir la montagne. Et pourtant, on a dans la Bible, on a un Dieu qui nous dit qu'il est là pour aplanir les sentiers. Si tu es sur une voie, sur une route et que tu as une montagne devant toi, eh bien sache que Dieu est là pour aplanir le sentier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette montagne, il est capable de l'enlever. Littéralement. Et il est capable de faire en sorte que ta vie puisse être une vie en ligne droite. Bon, des fois, il y a quelques petits crochets, ça s'appelle des épreuves. Mais Dieu les permet et Dieu t'accompagne. Ricardo Sanchez, alors a priori, hein, si j'ai bien vu, c'est quelqu'un qui fait la louange dans les pays espagnols, je ne sais pas où. Le diable connaît ton nom, mais t'appelle par ton péché. Et Dieu connaît ton péché, mais t'appelle par ton nom. Je vous laisse le temps de... Parce que si on prend au pied de la lettre cette phrase, il faut savoir que si aujourd'hui il y a certaines personnes qui ne viennent plus dans les églises, c'est à cause de ça. C'est tout simplement parce qu'ils ont toujours ce péché qui leur revient à l'esprit et qui fait qu'ils se disent à cause de ce péché-là, je ne peux pas rentrer dans une église. Eh bien non. Au contraire, Dieu te connaît par ton nom, pas par ton péché. Parce que la parole nous dit bien aussi qu'à partir du moment où tu t'approches de lui, il est capable de prendre tes péchés et de les jeter le plus loin possible et les mettre au plus profond des mers. La Bible nous le dit. Donc sache que si un jour tu te dis, je ne vais pas bien, cette semaine j'ai fait ça dans ma vie et ça m'empêche réellement de pouvoir aller à l'église, non. Ça, c'est le diable qui te donne des choses dans ta tête et que tu es en train d'entendre et que tu es en train d'écouter. Et si, tout à l'heure, quand je vous disais, est-ce qu'il y en a certains qui ont entendu la voix de Dieu, est-ce que Dieu leur parle et que beaucoup m'ont répondu oui, il faut savoir que par certaines circonstances, eh bien, on peut très bien avoir des mauvaises choses. Et je ne vais pas dire que le diable vous parle, ce n'est pas ça, mais vous pouvez avoir en sorte ou faire en sorte d'avoir une prise de conscience qui vous empêche d'aller vers Dieu. On a un Dieu d'amour, on a un Dieu qui veut absolument pouvoir s'approcher de toi. Et ça n'empêche que des fois, il va te mettre une petite fessée. Hein. Mais à chaque fois, il va t'aider à te relever. À chaque fois, il va venir là. Et il va t'appeler par ton nom en te disant, il faut absolument que tu te relèves. Il faut absolument que l'on puisse mettre toutes les promesses et tout ce que j'ai pour toi, il faut que tu les mettes en œuvre et en action. Je ne suis pas là, ce n'est pas parce que Fred, c'est noté pasteur sur mon front ou quoi que ce soit. Ce n'est pas moi qui vais vous forcer à faire vos devoirs. On avait un pasteur, et je l'ai déjà dit, mais auparavant, on avait un pasteur avec Pascaline, il y a une vingtaine d'années de ça. C'était un Australien, il est reparti en Australie. Et quand on l'appelait, qu'on lui disait qu'on avait un souci dans notre vie et sur certaines choses, eh bien, il nous disait « fais tes devoirs ». C'était la seule chose qu'il nous disait, c'était « fais tes devoirs ». C'est quoi faire ses devoirs? C'est de pouvoir prier, c'est de pouvoir avoir une relation avec Dieu, c'est de pouvoir lire sa Bible, c'est de pouvoir dire « Seigneur, moi dans ces circonstances, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi ». On continue. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. « Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. » Ce matin, ça va être mon commandement. Progressez encore. Progressons encore. Personne n'est arrivé. C'est pas possible. On ne peut pas être arrivé. Arrivera toujours un moment où tu vas chuter, tu vas avoir une petite pierre sur ta route qui va te faire trébucher et Jésus sera là pour te dire « Allez, on se relève et on y retourne ». On est sur une course de fond, pas sur un sprint. 2 Corinthiens 5, 21. « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et là, la boucle, elle est bouclée. Jésus a donné sa vie pour toi sur le bois de la croix pour que tu puisses avoir cette prise de conscience et dire « Si je suis là aujourd'hui sur cette terre, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas par hasard. » Non, je peux vous le dire, hein, c'est peut-être pas un, je sais pas pour certains, c'est peut-être un secret, mais la réincarnation n'existe pas. Tu ne vas pas devenir une mouche ou un chameau ou un arbre. Non. Aujourd'hui, tu as un certain laps de temps sur cette terre pour prendre une décision. Cette décision, c'est de dire « je suis Jésus » ou « je ne suis pas Jésus ». Suivre, le verbe suivre, « je ne suis pas Jésus », mais « je suis Jésus ». Je vais la refaire parce qu'il y en a qui n'ont pas compris, je suis sûr. Là, ça y est, je commence à voir les poissons rouges là dans les yeux. Là, voilà, il y a des aquariums ici. Oh, je ne suis pas Jésus, mais je suis Jésus. Ça va? Je vais terminer avec cette expression que j'aime bien. Georges Bernard Shaw. Il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi. Et il y a ceux qui imaginent les choses telles qu'elles pourraient être et se disent pourquoi pas. Et sortez les aquariums, hein, voilà. Non, je plaisante. Ça va? Cette phrase, elle est belle, non? Il faut imaginer les choses. Vous savez, il y a encore pas longtemps, il y a quelqu'un qui est venu me voir et me dit, ça y est, Fred, ta phrase, j'y arrive. La foi, c'est croire que pour que ce soit. J'ai dit, ouais, c'est bien. Essaye encore. Et cette personne-là, elle essaye encore. La foi, c'est croire que c'est quand ce n'est pas pour que ce soit. Entraînez-vous. La foi, mettez ça comme épitaphe sur ma tombe. Pourquoi? Non, j'ai rien dit. La foi, c'est croire que c'est quand ce n'est pas pour que ce soit. Non, juste un autre parenthèse, sur ma tombe, écrivez, surtout ne me réveillez pas. Voilà. Mais la foi, c'est croire que c'est quand ce n'est pas pour que ce soit. La foi, c'est ça. Il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi. Surtout en ce moment. Et il y a ceux qui imaginent les choses telles qu'elles pourraient être et se disent pourquoi pas? Et si Dieu existait? Un jour, je me souviens, j'étais jeune chrétien et on a eu un séminaire comme ça dans l'église. Et si Dieu existait? 3 points de suspension. Et ça, on pourrait très bien faire un séminaire comme ça en mettant des affiches partout dans l'île en disant et si Dieu existait? Parce que moi, ce que je réponds à cette phrase-là, c'est que si jamais je me trompe, j'aurais eu des principes assez sympas, parce que les principes bibliques, ils sont bons quand même. Hein. On ne va pas se voiler la face. Même si, imaginons, ils ne sont pas Dieu, c'est quand même de bons principes. Par contre, si Dieu existe, là, j'aurais tout bon. J'aurais tout bon. Et comme je suis convaincu que Dieu existe et que Jésus a réellement donné sa vie pour moi, eh ben, je peux vous assurer, et je peux être très affirmatif ce matin, j'ai tout bon. Je m'arrête là. Gardez là cette phrase. Vous avez vu, il y a pas mal de choses que... Et je pourrais parler pendant... Il y a pas mal de choses que je vous ai dites ce matin. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur votre ardoise. Parce que ton ardoise aujourd'hui, elle est dans quel état? Elle est dans quel état, ton ardoise? Est-ce qu'elle est trop petite parce qu'il y a tellement de choses que tu mets dessus ou que les autres mettent dessus? Des choses qui devraient être effacées. Parfois, des choses futiles, et elles sont toujours là sur ton ardoise, ces choses futiles. Parfois, il y a des choses graves, et c'est toi qui les regardes, les choses graves sur ton ardoise. Parce que Dieu, lui, il les a déjà effacées. Et cette ardoise, elle doit être propre, nette. Vous savez, comme un cahier. À chaque rentrée scolaire, les enfants aiment bien arriver avec leur cahier tout neuf à l'école. Parce qu'ils vont ouvrir la première couverture et là, ils ont une belle page blanche. Eh bien, sache qu'avec Dieu, la page, elle est blanche et c'est à toi de l'écrire. Donc ce matin, vraiment, j'aimerais t'exhorter. Si jamais tu es là, tu m'écoutes et qu'il y a des choses qui ont rebondi un petit peu, mais que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Jamais tu as fait cette démarche. Jamais tu as dit, bah tiens, ouais, et si Jésus vraiment avait donné sa vie pour moi? Si vraiment Dieu existait, ouais, qu'est-ce que je ferais? Demain je meurs ou cet après-midi je me fais renverser par une voiture, je passe à trépas. Qu'est-ce que je fais? Je vais où? Qu'est-ce que je deviens? Il n'y a pas longtemps de ça, on a regardé à la maison le film Ghost, vous savez, Ghost, avec la poterie, etc. Et quelque part, ce film, hormis le fantôme, hein, bien évidemment, parce que moi je pense et je crois sincèrement qu'à partir du moment où on meurt, il n'y a pas de fantôme, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de choses comme ça, on va soit avec Jésus ou pas avec Jésus. Mais ce film, il a beaucoup de choses qui sont là peut-être pour se dire, ben ouais, il est peut-être temps que je remette ma vie en ordre, que j'efface mon ardoise pour être en ordre avec Jésus. Parce que si Jésus revient cet après-midi, est-ce qu'il va me reprendre avec lui ?